Nous allons reprendre avec la deuxième partie de ce cours, avec cette fois une application en réalité virtuelle. Donc on va, Sophie va vous emmener en monoscopie, c'est-à-dire que vous allez voir un écran qui est plat. On pourrait le faire en stéréoscopie, mais là il y avait des questions techniques qui étaient un petit peu compliquées. Elle va se déplacer avec une manette de jeu vidéo de façon totalement libre dans un modèle de la Rome antique qui a été totalement reconstitué ici. Donc c'est un modèle numérique d'un monde qui est en grande partie endommagé, puisque une bonne partie des choses que vous allez voir sont des choses qui aujourd'hui n'existent plus. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc on pourra poser des questions soit avant ta première partie, soit une fois que tu auras tout fini, elle vous montrera aussi comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour travailler sur un sujet de recherche. Ce sera son sujet de recherche particulier qu'elle mène dans le cadre d'une habilitation à diriger les recherches sur ce qu'étaient les vélums de l'Antiquité. C'était les toiles de protection sur les édifices de spectacle. Voilà, je lui laisse la parole.
Voilà, donc je vais vous proposer de passer un petit peu de temps, une petite demi-heure, dans le modèle interactif de Rome qui est développé à l'université de Caen depuis 1994. Donc on est vraiment sur un objet de longue haleine. Et on va faire en une demi-heure ce qu'on pourrait faire pendant 3 jours de suite. Parce qu'honnêtement, je peux passer 3 jours sur le fichier que je viens de charger à vous promener dans Rome et à vous expliquer ce qu'était la ville de Rome. On va utiliser le modèle virtuel de Rome comme si on avait fait le voyage, comme si on venait d'arriver à Rome et si j'essayais de vous expliquer ce qu'était Rome sur place. Sauf qu'au lieu de le faire devant les ruines, on va le faire dans le modèle de Rome tel qu'on pouvait le restituer au IVe siècle. Alors la carte que vous avez devant les yeux, c'est la carte de Rome à l'époque antique, à l'époque de Constantin, et vous voyez qu'elle est parsemée de points rouges. Vous allez comprendre quand je vais utiliser la maquette, nous avons tenu à ce que ce modèle virtuel soit un modèle scientifique. C'est-à-dire que les vitesses de déplacement dans le modèle virtuel sont les mêmes que les vitesses de déplacement aujourd'hui. Si je vais aujourd'hui sur le forum romain et que je vais du temple de la Concorde au temple de César, je vais mettre le même temps que le temps que je vais mettre dans le modèle virtuel à aller d'un temple à l'autre. Nous avons également interdit les survols, vols de mouches, comme on voit dans les jeux vidéo. On ne peut pas accélérer la vitesse, je ne peux pas monter dans une Jeep pour aller vite, je ne peux pas passer à travers les murs. Donc le modèle virtuel va vraiment servir de modèle expérimental pour tester des temps de déplacement que nous avons du mal à appréhender aujourd'hui quand on est dans la ruine. Ça a un avantage, ça a aussi un inconvénient. Parce que par exemple, si je suis au Colisée, ici, je viens de vous faire la visite du Colisée, et puis qu'après je veux vous emmener au terme de Caracalla. En réalité, il faut 35-40 minutes pour aller à pied, ou peut-être un peu moins. Bon, allez, 35 minutes si on va doucement, pour aller du Colisée au terme de Caracalla. J'ai peut-être pas envie de passer 35 minutes dans les rues si j'ai envie de vous parler que du Colisée et que des termes de Caracalla. Donc les points rouges, ce sont des raccourcis qui vous permettent de passer directement d'un endroit à un autre. Donc on va éviter d'être trop théorique, je vais vous emmener tout de suite dans le modèle virtuel et on va voir comment on peut l'utiliser dans un but de recherche, mais également dans un but de médiation scientifique pour essayer d'appréhender ce que pouvait être cette Rome de l'Antiquité. Alors je vais vous emmener tout d'abord sur le forum romain, ici. C'est le centre administratif, politique et religieux de Rome. C'est là, par exemple, que le Sénat se réunissait. Et on va essayer de voir comment ce forum romain se présentait au IVe siècle. Donc j'entre dans le modèle virtuel. Tout le modèle de Rome est chargé. Et je vais utiliser la manette de jeu vidéo. Alors, par exemple, ici je vais commencer à avancer sur le forum romain, vous voyez que je dirige absolument tout. Si je veux tourner à gauche, tourner à droite, avancer, reculer, je fais tout ce que je veux. Et c'est bien la différence par rapport au 360 degrés, où un point de vue est choisi et où on ne peut tourner qu'à partir de ce point de vue. Ici, rien ne m'est interdit. Donc si je veux, je peux passer une heure à vous faire des commentaires sur les chapiteaux corinthiens, ou je peux passer une heure à vous faire une visite globale de Rome. Le modèle peut vraiment s'adapter au public qui se trouve devant moi. Alors essayons d'avancer sur ce forum. L'intérêt du modèle virtuel, au-delà de la restitution géométrique, va être de pouvoir aller un petit peu plus loin que ce que l'on voit sur les maquettes ou sur les dessins, dans le sens où nous allons pouvoir ajouter à la géométrie la restitution des matériaux. Je vais vous le montrer, par exemple, en entrant à l'intérieur de la Curie Julienne, c'est le bâtiment qui se trouve à ma gauche, c'est l'endroit où officiaient les sénateurs. Il faut savoir que sur ce modèle virtuel, nous nous attachons à restituer les matériaux qui ont été mis au jour par les archéologues à chaque fois que l'information nous est donnée. Alors regardez, je vais par exemple passer sur le côté pour entrer à l'intérieur de la basilique julienne. Il se trouve que cette basilique julienne a été transformée en église au Moyen-Âge et que les chrétiens ont refait un pavement sur le pavement romain. Or, quand la zone a été rendue zone archéologique, le pavement chrétien a été supprimé et le pavement romain a pu être mis au jour. Eh bien, ce pavement romain, voilà comment il s'est présenté au moment des fouilles. Nous l'avons restitué dans le bâtiment avec les bonnes couleurs, à la bonne taille. Et quelque chose de très important, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, j'ai une mire au centre de l'écran, un petit rond. Si je passe la mire sur un objet, par exemple ici sur le sol, et si le A apparaît à gauche de l'écran, ça veut dire que j'ai une documentation scientifique associée à cet objet. Donc je clique sur le A sur la manette, et à ce moment-là, je peux avoir accès à la photographie qui montre effectivement le sol de la Curie tel qu'il a pu être mis au jour par les archéologues. Donc l'intérêt du modèle virtuel, c'est de restituer la géométrie, de restituer les matériaux, de restituer la lumière également. Nous avons choisi de représenter Rome le 21 juin, le jour du solstice d'été. Et je peux aller dans l'icône simulation solaire et choisir à quelle heure je suis dans la Curie. Par exemple, à 15h, quelle lumière entrait dans le bâtiment? Comment ce bâtiment était-il éclairé? Je peux le retrouver grâce au modèle virtuel et me rendre compte que les sièges des sénateurs à droite étaient mieux éclairés que ceux de l'autre côté. Donc, pour ceux qui connaissent Rome, vous allez me dire en même temps, si on veut savoir l'éclairage dans la Curie le 21 juin, il suffit d'y aller, elle est debout, certes. Mais pour la basilique émilienne qui se trouve juste à côté et dans laquelle je vais vous emmener tout de suite, il ne reste rien. Et le modèle virtuel permet de faire des tests sur les ambiances des matériaux. On peut même aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer deux objets qui se trouvent au fond de la Curie julienne. Une statue en bronze qui représente une victoire et un autel que vous voyez en train de fumer au fond du bâtiment. Que représentent ces deux objets? Ces deux objets correspondent à des textes anciens qui nous parlent d'une controverse au IVe siècle après Jésus-Christ. Certains auteurs disant « il faut supprimer la statue de la victoire qui se trouve dans la Curie au IVe siècle, puisque c'est un symbole païen, et il faut supprimer les symboles païens dans tous les édifices publics de Rome. » Et d'autres personnes disant « oui, mais la victoire protège Rome, donc il faut maintenir la victoire dans la Curie. » On a ces échanges de textes, on peut faire vivre ces textes, essayer de comprendre quel était l'enjeu de la présence d'une statue païenne dans la Curie en la restituant à cet endroit. Ce que vous voyez à droite de la statue de la Victoire correspond également à des textes qui racontent qu'avant d'entrer dans le bâtiment, les sénateurs brûlaient de l'encens pour placer la séance sous la protection des dieux. Et on sait par plusieurs textes qu'il y avait effectivement un petit autel à l'entrée de la Curie, probablement du côté où nous l'avons placé, parce qu'un texte nous dit que l'autel est au centre du bâtiment. Or, si on place cet autel de l'autre côté, vu qu'il n'y a qu'une seule porte, cela revient à le mettre au milieu du passage, ce qui est un petit peu bizarre, d'autant que de l'autre côté, on donne directement sur le forum de César, ce qui était probablement une voie de circulation privilégiée à l'époque. Donc, on peut essayer de faire vivre des textes littéraires, de comprendre quelle était l'ambiance d'un bâtiment, quelle était sa décoration, quelle était sa lumière, grâce au modèle en réalité virtuelle. Bien entendu, le modèle en réalité virtuelle va aussi permettre de visiter des bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'est l'exemple que je vais prendre maintenant. Donc vous voyez ici, je ressors sur le forum romain, je retrouve la lumière du 21 juin, je me trouve devant l'arc de Septime Sévère, C'est l'arc qui permettait de monter au Capitole quand les empereurs remontaient la Via Sacra que vous voyez juste ici devant vos yeux. Au fond, nous avons la tribune des rostres. C'est une tribune sur laquelle montaient les orateurs pour s'adresser au public. Et cette tribune s'appelle les rostres, puisqu'elle est effectivement décorée avec les éperons des navires que les Romains avaient pris aux flottes ennemies. Et vous les voyez ici, des éperons en bronze qui servaient en quelque sorte à éventrer la coque de l'ennemi pour pouvoir couler le bateau, ou deuxième possibilité, à briser les rangs de rames pour que le bateau ne puisse plus ensuite avancer correctement. Alors je voudrais vous emmener voir le bâtiment qui se trouve juste à côté de la curie julienne. C'est un bâtiment civique qu'on appelle la basilique émilienne. Alors je voudrais vous la montrer parce que déjà Pline l'Ancien nous dit que c'était un des plus beaux bâtiments de l'Antiquité, un des plus beaux bâtiments du coup de Rome. Et effectivement, de très belles traces de polychromie ont été mises au jour sur le côté portique. Donc c'est le côté que vous voyez ici. Et grâce à la réalité virtuelle, on peut répéter les motifs, si vous voulez, à l'infini, et du coup redonner vie à ce portique qui était très important dans l'Antiquité puisqu'il permettait aux Romains de s'installer à l'ombre pour discuter et pas en plein soleil sur la place du Forum, ce qui devait être assez difficile en plein été. Ce bâtiment n'existe plus aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il en reste, mais par contre, quand les fouilles ont eu lieu, des monnaies ont été retrouvées en quantité importante, fondues dans le sol, à l'endroit où je me trouve ici. Et ces monnaies venaient de différents pays, et si on croise cette découverte archéologique avec les textes qui nous parlent de banquiers, de changeurs d'argent, on peut supposer qu'effectivement, les personnes qui étaient chargées d'échanger les différentes monnaies dans l'Empire romain s'installaient ici, dans des petites boutiques situées sous le portique de la basilique émilienne. Et un mémoire de Master 2 a été soutenu dans l'équipe pour essayer de restituer quel pouvait être ce mobilier à partir de différentes sources iconographiques. Donc l'intérêt du modèle interactif, c'est qu'on peut vraiment raconter une histoire, raconter l'histoire de Rome, faire vivre cette Rome du IVe siècle. Donc à quoi servait la basilique? Hormis le rôle secondaire que je viens de vous dire, c'était un lieu de justice. C'est l'endroit où les prêteurs rendait la justice à Rome. Or aujourd'hui, si je vous avais emmené à Rome et si je me trouvais dans la basilique émilienne, voilà ce que je pourrais vous montrer. Derrière, vous avez la curie que nous avons visitée au début de la séance et puis la porte voûtée que vous voyez un petit peu sur la gauche, c'est la porte voûtée devant laquelle je me trouve tout de suite. Vous pouvez me croire, quand on est devant ce bâtiment à Rome et qu'on essaye de s'imaginer... Moi, je suis allée à Rome, j'avais les textes de Pline. J'ai lu Pline qui dit « c'est un des plus beaux bâtiments de Rome ». Bon, peut-être, mais comment faire pour s'imaginer ce qu'il était? Eh bien, regardez, grâce au modèle virtuel, donc là aussi, ça a été l'objet d'un mémoire réalisé dans l'équipe, en étudiant les sources archéologiques, en étudiant les textes, et d'après les proportions données par Vitruve pour construire des basiliques, nous pouvons arriver à l'hypothèse de restitution suivante. Certes, c'est une hypothèse. Je ne suis pas en train de vous dire « voilà la basilique émilienne telle qu'elle était exactement au IVe siècle ». Parce qu'il y a des éléments dont je ne suis pas sûre. L'élévation des colonnes, par exemple, a été calculée par proportion. Nous n'avons que la base de la colonne. On sait généralement que le diamètre de la base de la colonne, par un système de multiplication de modules, permet de connaître sa hauteur. Donc on fait des hypothèses et on calcule la hauteur que je vous présente. Maintenant, il n'est pas exclu que les colonnes de la basilique émilienne étaient peut-être un petit peu plus élancées ou au contraire un petit peu plus tassées, mais peu importe. Le but n'est pas de vouloir imposer une vérité, mais d'essayer de proposer une image d'évocation qui soit la plus proche possible de ce que l'on peut proposer actuellement au vu des sources anciennes disponibles. Et ce que vous voyez sur le côté, entre les colonnes, ce sont des petits stands d'orfèvres que l'on connaît par les textes latins qui nous disent que les jours où il n'y avait pas de jugement donné par le prêteur au sein des basiliques, les orfèvres pouvaient s'installer dans la nef centrale pour vendre des objets relativement riches. Donc on peut continuer. Et nous allons arriver devant le temple au divin César, ce qui permet au passage, dans le cadre d'une médiation scientifique par exemple, d'expliquer au public ce qu'était la divinisation des empereurs, comment un chef d'État peut devenir divin. Aujourd'hui, je pense qu'aucun de vous n'imaginerait de parler du divin François Hollande ou du divin Jacques Chirac. Bon, à l'époque, c'est quelque chose qui existait avec Romulus, qui a repris avec César, et il y a une histoire à raconter dessus. Pourquoi le divin César ? Parce que le jour de l'anniversaire de ses funérailles, une comète est passée dans le ciel. Or, les Romains étaient des gens extrêmement croyants, et ils ont pensé que c'était l'âme de César qui rejoignait les dieux. C'est quelque chose que l'on connaît par les textes, que l'on voit également conforté par certaines sources iconographiques. Regardez par exemple cette émission monétaire. On voit très bien que c'est le temple de César qui est représenté grâce à l'inscription Divo Iul, que l'on peut compléter en Divo Iulio, le temple du divin Jules. Jules, ce n'était pas son prénom, c'était son nom de famille. Et regardez ce que l'on voit au-dessus, sur le fronton. On voit effectivement la comète qui est représentée, ce qui fait écho au texte qui raconte le passage de la comète que je vous ai raconté tout à l'heure. Et c'est probablement cet événement qui a permis à César d'être divinisé. Et après lui, tous les empereurs qui se seront assez bien conduits seront également divinisés. Pour ceux qui connaissent Rome, quand on arrive à ce point-là, sur le forum, on aperçoit très bien un petit temple circulaire qui d'ailleurs est très beau, mais qui a été remonté par Anastylos par les archéologues. Et c'est une image finalement assez fausse que l'on a de la Rome ancienne, parce que ce temple rond, en réalité, il n'était pas visible dans l'Antiquité, puisqu'un haut mur empêchait la vision depuis le forum romain. Ce petit temple ne pouvait être vu que par les femmes, et encore une seule fois par an, le jour de la fête des Vestalia. Et les hommes n'avaient jamais accès à ce temple, sauf le grand pontife. Alors ce temple, la réalité virtuelle va nous permettre d'aller le voir. Donc vous verrez que nous avons pu le restituer entièrement, d'après les restes archéologiques. Et nous avons même été un petit peu plus loin dans le modèle virtuel, puisque nous avons décidé de faire brûler la flamme sacrée qui protège la ville de Rome. Ça, c'est quelque chose qui est très bien connu par les textes. Les Vestales, qui étaient des prêtresses, avaient pour rôle d'entretenir le feu sacré qui, selon les croyances, protégeait la ville de Rome. Ce feu a brûlé pendant toute l'histoire de la ville de Rome et il était entretenu par les Vestales, qui avaient leur maison ici, en plein centre du Forum, juste à côté du temple de Vesta, dans un lieu relativement clos que l'on pourrait comparer aujourd'hui à un monastère. Et vous voyez comme le modèle virtuel peut être le point de départ pour raconter une histoire, pour expliquer des textes. Aujourd'hui, par exemple, moi je sais dans ma famille, on me dit souvent « mais ça sert à quoi de faire du latin ? Ça sert à rien ?» Et je leur dis « mais ça sert à quoi de savoir calculer une fonction en mathématiques ? Ça sert à rien ?» C'est pareil. Mais si vous voulez, ce modèle virtuel permet en quelque sorte de faire vivre des textes, de les confronter, de voir si les textes sont en adéquation avec ce qui est mis au jour au niveau de l'archéologie. Si on essaye de confronter les textes à l'archéologie, à l'iconographie, donc l'iconographie, ce sont toutes les représentations figurées, les monnaies par exemple, est-ce que l'on arrive à retrouver une logique ? Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que ces différences peuvent s'expliquer par une évolution du bâtiment dans sa chronologie ? Voilà toute la recherche qui est menée à Caen, et toute cette recherche, si vous voulez, est rendue vivante et accessible grâce au modèle virtuel. Notre but, ce n'est pas de faire des images, que vous les trouviez belles ou non, d'ailleurs, peu importe. Le but, ce n'est pas de faire des images, ce n'est pas de vous occuper ou de vous distraire. Le but, c'est d'essayer de transmettre le savoir par d'autres moyens que l'enseignement académique traditionnel. Et on constate, je pense que vous vous rendez compte aussi, que les filières classiques sont de plus en plus désertées par les élèves. Il n'y a quand même pas beaucoup d'étudiants aujourd'hui en lettres classiques. Et pourtant, assez paradoxalement, vous ouvrez votre programme télé sur 15 jours, Je vous prends un défi, il n'y a pas 15 jours sans qu'il y ait un documentaire sur l'Antiquité. Encore l'autre jour, il y avait un documentaire sur les gladiateurs. Alors il y a deux solutions. Soit nous, en tant qu'universitaires, on ne s'en occupe pas, puis ils racontent ce qu'ils veulent et au risque de raconter des bêtises. Soit nous, on commence à s'en occuper et on se dit après tout, pourquoi ne ferions-nous pas nous aussi de la médiation, mais de la médiation qui puisse faire état des derniers résultats de la recherche. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire des belles images, ou du moins des images acceptables pour le grand public, de manière à pouvoir justement passer dans ces médias. C'est une discussion que j'avais il y a encore un mois avec un collègue à Bordeaux qui est lui aussi convaincu de la restitution virtuelle, mais qui me disait « Pourquoi vous vous embêtez avec le soleil? Pourquoi vous vous embêtez à faire les marbres? On s'en fiche, vous faites des lignes, vous mettez des couleurs et puis c'est bon. » Et je lui ai dit « C'est bon pour nous, parce qu'effectivement, ça va suffire pour nous, en tant que chercheurs, à percevoir ce qu'était le bâtiment. » Je fais « Sauf que quand Arte va venir te voir et qu'ils vont voir tes images, elles ne vont jamais être prises. Et du coup, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre des images d'un aspect plus ludique, quitte à ce que le dossier scientifique derrière soit plus mauvais. Et donc, aussi rêve, nous défendons l'idée d'essayer d'avoir des images d'un niveau graphique relativement correct, ou du moins pas trop éloigné de ce qui sort aujourd'hui dans le monde de la restitution virtuelle, de manière à ce que ces résultats de la recherche puissent sortir lors de la diffusion au grand public. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on passe parfois du temps à refaire des textures, à travailler sur les éclairages, à changer de logiciel, alors qu'en soi, pour la recherche, ce n'est pas très utile, mais on essaye de maintenir un niveau graphique qui soit acceptable. Alors je voudrais quand même, on va prendre des raccourcis pour aller un petit peu plus vite. J'ai fait cette petite zone-là, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes, j'ai fait ça. Et j'ai toute la carte à vous faire visiter. Donc on ne va pas y passer trop de temps, je vais vous emmener quand même rapidement dans les thermes de Caracalla, parce que les Romains y passaient 2 heures par jour. Et que faisait-on dans les thermes? On allait se laver, puisque tout le monde n'avait pas d'eau courante à la maison. On allait discuter et on allait se renseigner sur ce qui se passait un petit peu dans l'état, puisqu'il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas la télévision à l'époque. Eh bien, regardez, la réalité virtuelle permet d'aller assez loin dans la restitution de ce que l'on appelle au niveau informatique des particules. Donc, je peux mettre la flamme dans le temple de Vénus, je peux faire couler l'eau dans la natatio des thermes de Caracalla, et je peux faire la brume dans le caldarium. Certes, en tant que chercheur, ce n'est pas très utile, parce que je pouvais mettre un bloc vide et puis ça suffisait pour comprendre que c'était la piscine. Mais quand je reçois des élèves, il y en avait encore la semaine dernière, des CE2, une fois qu'ils trouvent l'image belle, je vous assure, ils écoutent tout ce que vous dites. Et on arrive à faire passer du savoir parce qu'ils ont trouvé que c'était acceptable. On avait fait une expérience il y a quelques années, on avait le nouveau modèle du Colisée et l'ancien qui avait été fait il y a 15 ans. Et j'ai commencé par mettre l'ancien. Et les élèves se sont assis et ils ont dit « Ah, c'est moche !» Eh bien, allez après leur expliquer le fonctionnement du Colisée et essayer de faire passer du savoir. Une fois qu'ils ont dit « C'est moche, c'est fini !» C'est fini. Vous n'êtes plus crédible à leurs yeux. Alors qu'il y a 15 jours, j'avais une classe parce que je remplaçais le guide du plan d'homme qui finissait sa thèse. J'ai mis cette image, les enfants se sont assis et ils ont dit « Waouh !» Bon, c'était des petits. Mais quand même. Et une fois que l'effet était passé, j'ai pu commencer à leur parler de Rome et ils écoutaient. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas forcément facile de trouver le bon milieu entre la science et la médiation. C'est des fois peut-être qu'on peut se tromper sur notre rôle et sur jusqu'où il faut aller dans le modèle virtuel. Mais certains choix peuvent s'avérer quand même rentables sur le long terme. Donc un choix que nous n'avons pas fait pour le moment, et je pense que vous l'avez vu, c'est que ce modèle est très minéral, il est vide, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'homme, parce que ça prend du temps, parce que ça prend des ressources informatiques et que pour l'instant ça prend trop de ressources pour que nous puissions l'intégrer à notre modèle interactif. Puis nous nous demandons un petit peu quel serait l'intérêt du point de vue scientifique. Qu'est-ce que ça va donner de peupler cette Rome? Est-ce qu'on va pouvoir faire un discours sur le costume? Est-ce qu'on va pouvoir les faire parler? Quel latin vont-ils prononcer? Vous voyez, ce sont d'autres problématiques qui vont découler de l'humanisation du modèle. Et du coup, ce sont des questions que nous nous posons encore un petit peu. Alors, voilà pour la restitution architecturale. Je voudrais maintenant prendre un exemple complètement différent, un exemple que j'ai développé pour mon habilitation à diriger des recherches. Et je voudrais vous le montrer. La restitution architecturale, la restitution n'est pas forcément uniquement de la restitution d'architecture. Et ça va un petit peu répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure sur les fonctionnements mécaniques. Pourquoi restituer l'architecture? Donc, ça peut servir à expliquer ce qu'était une ville, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais il peut y avoir également d'autres intérêts, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Dans le cadre de ma thèse, par exemple, je me suis attelée pendant 3 ans à réunir toutes les sources littéraires, les textes latins, les textes grecs, qui parlaient du théâtre de Pompée. Le théâtre de Pompée, c'est le plus grand théâtre de Rome, 160 mètres de diamètre, 20 000 spectateurs, et aujourd'hui à Rome, il n'en reste rien. Rien du tout. On ne peut plus rien voir. Et en plus, il n'y a aucune source archéologique. Quasiment. Ou quelques bouts de gradins à droite, à gauche. Donc l'analyse de ces sources a permis de travailler en binôme avec un informaticien qui a restitué ce modèle virtuel. Et une fois que le modèle virtuel a été terminé, cela a permis de mener un certain nombre d'expérimentations. Par exemple, on peut s'installer sur le dernier gradin du théâtre de Pompée et regarder de quelle taille on perçoit les acteurs qui évoluent sur le pulpitum. Et là, il n'y a pas d'écran géant pour rendre le spectacle plus visible. Donc, ceux qui étaient installés en haut du théâtre de Pompée ne voyaient pas les acteurs mieux que cela. Et quand on voit cette image, on comprend peut-être mieux pourquoi les textes latins nous disent que les rôles des acteurs sont codifiés par des vêtements de couleur. C'est sûr que si on est installé là et si l'esclave n'est pas habillé d'une couleur et la servante d'une autre couleur, on va avoir du mal à les différencier visuellement. On comprend aussi le rôle du masque qui grossissait énormément les traits de l'acteur qui pouvait servir pour ceux qui s'installaient tout là-haut. Et on comprend également pourquoi les acteurs portaient des cothurnes, des très hautes chaussures qui permettaient à l'acteur d'apparaître plus haut sur la scène et donc d'être mieux vu. Donc ça, c'est pour la restitution des points de vue. Mais on peut aller un petit peu plus loin sur la restitution des systèmes mécaniques, et notamment sur le vélum. Le vélum, c'est un système de toile temporaire qui a été utilisé dans l'Antiquité pour protéger les spectateurs du soleil quand un endroit était trop grand pour pouvoir être couvert par une charpente. Donc des toiles de lin dépliées pour protéger les spectateurs du soleil. Or, pour les grands théâtres, comme le théâtre de Pompée, nous savons que ces vélums étaient utilisés. Nous le savons par les textes latins. Regardez par exemple ce texte de Lucrèce, 1er siècle. Il nous dit « Les nuages font aussi du bruit au-dessus des vastes plaines de notre monde, comme parfois le carbasus tendu dans les grands théâtres entre les mâts et les vergues. » Donc le carbasus, c'est le lin, c'est par métonymie une définition du vélum. Donc nous savons qu'un vélum, grâce à Lucrèce, était parfois déplié au-dessus des théâtres, au moins au 1er siècle. Donc une attestation littéraire. Et à droite, regardez cette peinture, c'est une peinture mise au jour à Pompéi qui représente l'amphithéâtre de Pompéi. Et ce que vous avez là, c'est un combat de supporters, comme quoi on n'a rien inventé. Les supporters de Pompéi qui se battent contre les supporters de Nocérie, une ville voisine, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur qui a gagné le combat. Bref. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'on voit ici en haut de l'image. On voit que les gradins de l'amphithéâtre de Pompéi sont protégés par des voiles temporaires, sont protégés par un vélum. Donc l'idée, au cours de la thèse, a été de se dire « essayons de restituer le vélum sur le théâtre de Pompée ». Et partant du texte de Lucrèce, partant également d'autres sources littéraires et archéologiques, j'avais proposé ce premier système de restitution de vélum, qui est le système couramment attesté, à savoir des mâts placés à l'extérieur des gradins, à l'extérieur de la cavea, et des vergues placées à 90 degrés des mâts. C'est le même système que sur les voiles d'un navire. Sauf que les vergues étant d'un seul tenant, il faut qu'elles soient faites avec un seul morceau de bois, Et donc, il faut trouver un tronc de la longueur adéquate. Et donc, on estime que le grand maximum, c'est 25-30 mètres pour les vergues. On ne peut pas faire des vergues plus longues. Donc, on est parti comme ça. J'ai dit à l'informaticien, eh bien, vas-y, on va restituer un vélum à vergues sur le théâtre de Pompéi et on va voir ce que ça donne. Donc, ça a pris du temps. Et on a fait la simulation solaire grâce à la réalité virtuelle. Et là, je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre parce que quand j'ai vu le résultat, je vais mettre la vidéo sur pause, voilà ce que ça donne. On a un théâtre de Pompéi avec ce système qui est en plein soleil à 10 heures, qui à midi est encore quasiment en plein soleil. À 14 heures, c'est toujours pas terrible et à 16 heures, c'est toujours au soleil. Donc autant dire qu'on a un système qui sert quasiment à rien du tout, surtout quand on sait que les places d'honneur sont les places du bas ici. Donc imaginez un ingénieur qui a mis ce système au point, formidable, il y a plein de voiles, il y a plein de mâts, c'est compliqué à bouger, et toutes les personnes importantes sont au soleil à peu près toute la journée. Donc là, je lui ai dit, on s'est probablement trompé quelque part. Sauf que jusque-là, tout le monde avait dit, ça devait être un vélum à vergue sur le théâtre de Pompéi. Je lui ai dit, on s'est probablement trompé quelque part, parce que nous avons un texte latin qui nous dit que les sénateurs sont à l'ombre du vélum à Rome, dans un théâtre. On ne sait pas dans quel théâtre, mais il n'y en a que trois. Donc, se dire que les sénateurs étaient en plein soleil à Rome, alors qu'en plus on a un texte qui dit l'inverse, c'est problématique. Donc, retour aux sources, réanalyse des sources. Et là, il est apparu qu'un autre système concurrentiel existait dans l'Antiquité, qui est attesté principalement grâce aux restes archéologiques visibles sur le mur de Seine du théâtre d'Orange. Au théâtre d'Orange, derrière le mur de Seine, on voit qu'il y a des consoles avec des trous. Ça veut dire qu'il y avait aussi des mâts derrière le mur de Seine, et pas uniquement des mâts derrière les gradins comme dans le premier système. Quel est l'intérêt d'avoir des mâts des deux côtés ? Eh bien, c'est qu'on va pouvoir tendre des cordes entre les deux séries de mâts. Les cordes n'ayant pas de limite de portée, on va pouvoir les faire beaucoup plus longues que les vergues et du coup déplier des cordes sur une surface beaucoup plus importante qu'avec le premier système. Donc là, j'ai travaillé avec un physicien de l'université de Caen qui m'a calculé le poids des cordes, qui a calculé la section nécessaire de mât pour que le système puisse tenir. Nous avons proposé une nouvelle restitution et cette nouvelle restitution a pu être testée grâce au modèle en réalité virtuelle. Donc il ne s'agit pas bien sûr de dire que c'est la bonne solution, mais c'est une solution qui permet de mettre les sièges des sénateurs à l'ombre du vélum, conformément à ce que nous disait le texte latin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sans la réalité virtuelle, sans la possibilité de faire les tests, j'aurais écrit, comme d'autres ont écrit avant, que le système à vergue était probablement le système qui permettait de créer de l'ombre sur les spectateurs du théâtre de Pompéi. Sauf qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, on aurait pu le calculer par le calcul, en calculant l'angle d'inclinaison des rayons du soleil, mais c'est quelque chose qui est assez complexe. Et là, regardez, en quelques jours de calcul informatique, on se rend compte qu'avec ce système-là, on peut protéger effectivement et de façon relativement efficace tous les premiers rangs, les rangs d'honneur du théâtre de Pompéi. Et j'ai dupliquer cette simulation d'efficacité du vélum sur différents types d'édifices de spectacle, sur les stades, sur les théâtres et sur les amphithéâtres. Et c'est une recherche qui devrait être publiée dans les prochains mois. Donc, ce que je voulais vraiment essayer de vous montrer, c'est que la réalité virtuelle peut servir à faire de la représentation, à faire des images pour montrer des choses que l'on connaît déjà. Ça peut servir à faire de l'expérimentation sur les temps de déplacement, sur les points de vue, et ça peut faire également un très bon objet d'étude pour tester l'efficacité de certains systèmes mécaniques et pour les mettre à l'épreuve une fois en situation dans la ville de Rome.
Bien, merci Sophie pour cet exemple. Donc à travers ces deux interventions, nous avons essayé d'aborder une partie des problématiques du sujet, réalité virtuelle et patrimoine. Vous avez vu qu'une partie des problématiques sont des problématiques technologique. Alors vous allez me dire, bon, nous, humanité numérique, ça ne nous concerne pas trop. Sauf que, si, il faut, hein, on va pas, il ne s'agit pas de faire de vous ni des informaticiens, ni des infographistes, mais il faut que vous puissiez dialoguer avec le monde du numérique. Et ces problématiques sont d'autant plus importantes que la réalité virtuelle est une technologie récente. C'est une technologie qui est apparue dans les années 80. C'est tout neuf. Il y a encore beaucoup de travail aujourd'hui sur les moyens de visualisation, sur les moyens d'interaction. Je ne vous ai pas tout montré. On est en train de faire des expérimentations sur la façon de se déplacer seulement avec le mouvement des mains, avec des gants. Voilà. Je veux aller là, et je vais là. Je veux aller par là, simplement avec mes mains. On a encore beaucoup de recherches à faire. Quel est le moyen le plus naturel, qui va être quasi réel, pour reprendre l'expression anglaise de réalité virtuelle, de se déplacer ou d'interagir avec un monde virtuel? Il y a aussi tout un travail à faire du point de vue technologique sur les applications qui permettent de mettre à la disposition de tous, de vous en tant que public académique, du grand public, la réalité virtuelle. Comment naviguer dans un monde réel? Là, il ne faut pas croire que c'est simple. Ça paraît simple peut-être comme ça. La machine utilisée ici est une machine hors de prix pour l'usage simple particulier. Si on voulait faire fonctionner ce que Sophie vous a montré sur une machine ordinaire, il y aurait des jours, des mois de travail pour transformer cette application sur une machine ordinaire. Donc des problématiques qui sont des problématiques technologiques. Il y a aussi des problématiques qui sont des problématiques purement patrimoniales. Elles touchent d'un côté ce qu'on appelle l'économie du patrimoine. Ce serait dommage dans les musées, dans les collectivités locales, d'utiliser simplement la réalité virtuelle parce que ça fait bien. Voilà. Parce que c'est à la mode, parce que c'est une nouvelle technologie et parce qu'on pense que ça va attirer un public, un nouveau public. C'est vrai, mais ça ne durera pas un temps. Et la réalité virtuelle coûte tellement cher qu'il faut absolument, au départ, fixer les objectifs pour lesquels on veut utiliser la réalité virtuelle. Est-ce que c'est pour étudier un site existant? Est-ce que c'est pour représenter un site disparu? Toutes les questions que j'ai évoquées avec vous, il faut se les poser avant de se lancer dans la fabrication d'un modèle virtuel ou avant même de s'engager dans les techniques de réalité virtuelle. Et puis, il y a des problématiques qui sont des problématiques purement scientifiques sur la légitimité et la méthodologie de la restitution virtuelle. Le modèle de Rome qui vous a été présenté peut susciter toute une série de questions sur sa légitimité scientifique. À partir de quel moment on a le droit, entre guillemets, de faire cela, de le montrer? Quel est l'intérêt des études menées sur la restitution? Et puis, il y a toute une série de problématiques qui sont des problématiques de médiation. Comment est-ce qu'on utilise un modèle virtuel? Est-ce qu'il faut l'utiliser avec un médiateur scientifique? Est-ce qu'on peut l'utiliser en libre service? Comment on va le mettre en place dans des lieux patrimoniaux, avec quelles interfaces, avec quel système d'accès à la documentation scientifique? Voilà toute une série de questions qui sont objets d'études, qui sont objets de thèse aussi. Tout de suite, on a dans notre équipe quelqu'un qui fait une thèse sur la notion de présence en réalité virtuelle. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les paramètres qui font que l'on se sent présent dans un modèle virtuel, comme on se sent présent dans la réalité? Alors ça a un intérêt, en particulier dans le secteur santé, puisqu'on fait de plus en plus d'expérimentations médicales en utilisant la réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut tirer des expérimentations médicales en réalité virtuelle les mêmes conclusions que celles qui sont faites en réalité réelle? Eh bien, la thèse s'attachera à montrer quels sont les paramètres qui jouent. Voilà quelques aspects des problématiques que l'on voulait aborder avec vous. Nous avons volontairement limité notre temps de parole pour vous laisser à vous le temps de poser des questions si vous le souhaitez. Oui ? Non, mais vous avez raison. Alors pourquoi on a choisi Rome ? Alors c'est une question tout à fait, conjoncturel. Il se trouve que Kant possède l'une des trois maquettes qui existent au monde de la Rome antique, des grandes maquettes. C'est un hasard, je pourrais vous le raconter, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt de le raconter ici. C'est un hasard que Kant possède une de ces trois grandes maquettes. Il y en a une autre à Bruxelles, une autre à Rome en Italie. Et ce sont les trois seules grandes maquettes de la Rome antique au monde. Cette maquette de Kant, celle de Kant en plus, est précieuse parce que c'est l'original de celle de Bruxelles. C'est un objet patrimonial qui est important en tant que tel. En tant que tel, il existe à Caen depuis 1956. Et quand on a construit ici la maison de la recherche en sciences humaines, on a souhaité mettre en valeur cet objet patrimonial. Et en même temps, c'était en 1994, la construction de cette maison. Ce bâtiment ici est récent. L'extension qui est ici date de 2015. Le bâtiment là-bas date de 1994. On a décidé de montrer aussi que les sciences humaines pouvaient utiliser pour mettre en valeur le patrimoine, pouvaient aussi utiliser les nouvelles technologies. Et c'est là qu'on a lancé le projet de reconstitution virtuelle de Rome, en se disant, voilà, on a une maquette de Rome qui est un objet qui est extraordinaire, un objet patrimonial qui est extraordinaire, qui a un intérêt pédagogique, hein, les classes viennent nous visiter, mais qui en même temps nous pose deux types de problèmes. Il nous pose un problème de mise à jour scientifique. Cette maquette a été terminée dans les années 30. Elle n'est plus mise à jour depuis les années 30. Or, depuis, on a fait des nouvelles découvertes. On a réinterprété d'anciennes découvertes. Donc, scientifiquement, elle n'est plus à jour. Mais on ne peut pas la modifier. Parce qu'elle est... D'abord, c'est difficile techniquement. Mais surtout, parce qu'elle est classée à l'inventaire des monuments historiques. Et que donc, elle est figée. Et puis, c'est bien. C'est bien, après tout, qu'on ait... ici, de façon figée, l'état des connaissances sur Rome dans les années 30. Donc ça, c'est le premier type de problème. Deuxième type de problème, c'est que c'est toujours un petit peu frustrant devant une maquette comme celle-là de ne pas pouvoir entrer à l'intérieur, hein, de ne pas pouvoir se mettre à l'échelle du modèle. Et ça, c'est un des intérêts de la réalité virtuelle sur lequel je n'ai pas trop insisté, mais vous l'avez vu de vous-même dans la présentation de Sophie. En réalité virtuelle, vous êtes à l'échelle de ce que vous représentez. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, eh bien, on va faire, à côté de la maquette de Paul Bigot, c'est l'auteur de cette maquette en plâtre, une maquette virtuelle à la même époque, 4e siècle. Voilà pourquoi Rome, et voilà pourquoi cet exemple. Mais on ne travaille pas que sur Rome. On a travaillé sur Caen avant les bombardements. On travaille actuellement sur la Mésopotamie avec le palais de Nimrod. On va sûrement travailler sur des termes dans les Ardennes. On travaille sur différents sujets qui ne sont pas en rapport avec Rome. Mais c'est notre fond de spécialité. Et puis, voilà, je suis professeur de latin. Donc, à la limite, c'était un sujet qui m'intéressait aussi au départ. Oui, je vais prendre une question à vous. Oui. Oh, je dirais quasiment tous les mois. Hein, tous les mois, surtout depuis qu'on a institué, donc ça fait depuis 10 ans qu'on a le principe des nocturnes, qu'on veut présenter au public une partie de la maquette. Environ six fois par an. Pour nous, c'est une incitation à chaque fois à mettre à jour, à faire des modifications, des ajouts. Et puis parce que c'est une maquette virtuelle qui circule dans le monde. C'est un des intérêts du virtuel aussi, je n'ai pas tellement insisté dessus, mais j'en ai parlé à propos des grottes chinoises. Mais l'intérêt d'une maquette virtuelle, c'est que vous l'emmenez partout avec vous, vous pouvez la diffuser comme vous voulez, et que... au gré des discussions, des colloques, il y a tel spécialiste des basiliques, tel spécialiste de tel temple qui nous dit « Ah oui, mais ça c'est plutôt comme ça. » Donc là, nous, on regarde en interne, on a aussi toute une série de contacts scientifiques avec lesquels on discute, on dit « Bah oui, c'est peut-être mieux de présenter comme ça. » Donc on fait les modifications. Mais oui, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de mois qui se passe sans qu'il y ait une mise à jour sur le modèle.
La réalité virtuelle, ça pourrait devenir une sorte d'archive, en fait. On doit archiver tous les monuments de la planète.
C'est fondamental. C'est une des utilisations fondamentales. C'est avec deux types d'utilisation qui se font déjà actuellement. C'est l'utilisation de la réalité virtuelle pour préserver ce que le temps abîme, naturellement. Ou ce que la fréquentation du public abîme. Ça, c'est quelque chose qui est déjà fait, ou encore ce qui va être détruit par l'urbanisme. On fait beaucoup d'archéologie quand on fait une autoroute, quand on fait un nouveau bâtiment. Il y a de l'archéologie, ce qu'on appelle de l'archéologie préventive, qui est faite. On ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout garder. Mais là, si on a le temps de scanner rapidement un lieu ou de le faire en photogrammétrie, on peut garder la mémoire d'un lieu qui va être ensuite rebouché, recouvert. Et puis la deuxième chose, on a une application très pratique avec l'utilisation, avec Nimrod en Irak. On savait que c'était des restes qui allaient être menacés par la guerre. Effectivement, une partie des choses qu'on a restituées ont été détruites. Et on a eu le temps, juste avant, de les numériser. Et puis d'en faire une restitution virtuelle. Il y a au moins ça qui restera, hein, même si on sait qu'actuellement, une partie des choses qui étaient encore debout ont été détruites. Oui ? Oui, oui, c'est tout à fait libre. Vous avez le programme qui est sur Internet, hein, sur n'importe quel moteur de recherche. Vous cherchez Plan de Rome Caen ou Nocturne Plan de Rome Caen, et vous allez avoir le programme complet pour la. Alors, le programme complet pour la saison, c'est à l'Amphipierre d'Or le mercredi à 18h30, et c'est gratuit, c'est ouvert à tous.
C'est sans inscription.
Donc autant on avait des problèmes de place dans l'ancien amphi, quand on faisait ça, l'amphi chimie qui faisait 180 places, où il fallait être de bonne heure parce que bien souvent il n'y avait plus de place. Là, l'amphi Pierre d'Or, on a encore de la marge. Oui ? Alors, Palmyre, je ne sais pas. Je ne crois pas, j'en ai pas vu passer. Vous avez un site qui maintient bien au courant de tout ça. J'ai essayé de vous donner ça tout de suite. Si je le retrouve. Oui, c'est le site, vous cherchez sur un moteur de recherche, Club Innovation Culture. Club Innovation Culture. Club Innovation Culture, vous verrez, vous avez une mise à jour assez régulière de tout ce qui se fait dans le domaine patrimoine et réalité virtuelle. C'est exponentiel. Depuis 2016, on ne peut plus suivre. Alors, à un moment donné, j'ai songé à vous faire un catalogue, une présentation de tout ce qui se faisait en réalité virtuelle dans le domaine du patrimoine. J'y renonçais parce que je crois que rien que dans la nuit, il y aura encore certainement de nouvelles choses qui sont apparues. Donc, voilà. Mais ensuite, vous regardez sur ce site-là, vous avez des listes qui sont faites et vous avez actuellement aussi ce qu'on appelle le consortium 3D dans le cadre de la TGIR, Très Grande Infrastructure Scientifique de Recherche, qui rassemble les principaux laboratoires en France qui travaillent sur la réalité virtuelle. Et on est le CIREV en fait partie, et on est en train, la réalité virtuelle archéologique, et on est en train de publier des documents qui vont faire le point sur ce qui se fait en réalité virtuelle et sur ce qui normalise la réalité virtuelle dans le domaine du patrimoine. Oui. Alors, pour la ville de Rome totale, un jour, un jour, pour ce qui est, pardon. Voilà. Par contre, sur PC, pour avoir une douzaine déjà de secteurs à visiter de bâtiments, à partir du 18 octobre de cette année. Puis petit à petit, selon les réactions de tous, eh bien, on étendra. Mais le 18 octobre, on est en train de faire les derniers tests tout de suite. Et le 18 octobre, il y aura, dans le cadre de la fête de la science, même si c'est la semaine d'après, il y aura une conférence de presse spéciale qui sera le lancement officiel de ça. Et ce sera téléchargeable gratuitement. Il suffira, vous cherchez Romain Tabula sur Internet et vous trouverez vous trouverez l'application. Donc déjà, c'est utilisable sur tablette Android ou téléphone. Hein. Sur téléphone ou tablette Android.
Sur le Google Store, elle est accessible tout de suite et gratuitement avec le bâtiment téléchargeable sur Android.
Il y a d'autres questions? Non? Bon, mais écoutez, je vous souhaite une bonne suite d'études, une bonne fin de journée, et puis à bientôt sûrement, vous aurez d'autres intervenants du CIRAD. Merci à vous.